Chapitre 8e, l'autre victime. Après cette constatation qui nous causa, certes, un profond émoi, Martin Humain nous dit « Je sais donc à présent ceci, qui n'est pas sans importance, comme bien vous le pensez, le mécanicien du comte de Villacerboli et le fantôme de neige tué par le chevalier Fontis ne sont qu'une seule et même personne. Ce qui prouve que nous ne nous égarons pas. Nous avons toujours en face de nous la même bande qui poursuit un but criminel que nous commençons à pressentir. » Martin Humain alors alluma une nouvelle cigarette, car depuis 5 minutes à peu près il n'en tenait pas une aux lèvres, et il reprit. Le but est clair, faire taire le comte di Villacerboli, faire taire le chevalier Fontis, faire taire l'ami Bessette. Il semble en effet que ce soit leur but. Reste maintenant à prendre enfin ce que ces gens-là ne veulent pas qu'on sache. Puis après un moment de silence, Martin Humain me demanda « Que comptiez-vous faire cet après-midi, mon cher Courville ?»«
Je n'ai d'autre objet que mon service habituel au journal. Je ne vois pas autre chose pour le moment. »«
Très bien. Alors vous pourrez venir faire une petite promenade avec moi. »«
Mais très volontiers.
Parfait. Je vais, pour ne pas vous faire languir plus longtemps, vous dire où nous irons, cet après-midi, rendre visite au chevalier Fontis. »
Je tressaillis. « Au chevalier Fontis ?
Pourquoi pas ?»
« Est-ce parce qu'il nous est arrivé cette aventure chez lui que nous ne devons plus aller voir ce digne et vaillant homme ?»«
Non, certes. Notre devoir, au contraire, est de prendre de ses nouvelles. Comprenez-vous ? J'arrive de voyage, moi. Je viens de faire arrêter à la frontière les assassins de la receleuse de Saint-Ouen. Il est tout naturel que j'aille voir comment se porte le chevalier. » »«
En effet.
Mais ne disiez-vous pas qu'il fallait que l'événement de la nuit demeurât secret ?»«
Eh bien, pardon. »
L'événement doit être secret pour le public, mais non pour nous, pour nos ennemis, pour ceux qui ont tenu un rôle dans ce drame.
Très juste.
Or, il faut, au contraire, que ces bandits sachent qu'à peine de retour, j'étais chez le chevalier. Si je ne faisais pas cette visite, toute logique, indiquée, forcée, en somme, ils auraient le droit de s'en étonner. Je comprends.
Martin Humain, donc, ne me laissa pas partir. Il me garda à déjeuner chez lui, ainsi que son fidèle Prosper.
Après le café, Prosper prit congé. « Je vais tout préparer, chef, » dit-il. « Ne vous occupez de rien. »«
C'est cela. À tout à l'heure. »
Peu après, nous quittions son appartement et nous descendions la rue Lepic. Nous allions doucement. Il s'appuyait à mon bras, tâchait de cacher autant que possible la légère claudication que malgré lui lui imposait sa blessure. À quelques pas de la rue Lepic, il fit signe à un taxi qui descendait très paisiblement en retenant son moteur dans cette rue glissante et encore imprégnée de neige foulée et de boue noirâtre. Nous entrâmes dans la voiture. Je jetai un coup d'œil au cocher et un clignement d'œil qu'il me fit, je reconnus le second, Prosper. Le taxi s'ébranla et se remit à descendre la rue Lepic, gagna la rue Blanche et les boulevards extérieurs. Martin Humain me dit « Mon cher Courville, « voulez-vous, je vous prie, regarder par le petit Judas de la capote, si notre homme brun nous suit toujours ?» Je soulevai le carré de cuir qui cache la glace de l'arrière de la voiture, et je vis, en effet, qu'à 10 mètres de nous venait un taxi semblable au nôtre qu'un chauffeur à moustache très noire conduisait. Par la portière, un homme, l'homme brun, notre espion habituel, se penchait d'un côté, et de l'autre, par l'autre portière, notre espion extraordinaire, l'homme rouge, le rouquin, surveillait notre voiture. J'en fis part à Martin Humain qui me dit « Ah ah, il paraît que la leçon a porté ses fruits et qu'aujourd'hui ils prennent double précaution. Tant mieux, leur espion est doublé. Ils sauront doublement que nous allons chez le chevalier Fontis et je tiens à ce qu'ils le sachent. » Notre voiture continua son chemin et nous débarqua enfin devant la grille du petit hôtel du chevalier Fontis. Martin Humain sauta légèrement, paya le chauffeur qui s'en alla et sonna à la grille. Pendant qu'on nous ouvrait et que nous pénétrions dans le petit jardin s'étendant devant la maison, le taxi qui nous suivait, dans lequel se trouvaient l'homme brun et l'homme rouge, s'arrêta devant le trottoir opposé, devant la maison où déjà Martin Humain avait la certitude que les ennemis du chevalier occupaient un appartement. En effet, abrité par un massif, Martin Humain put voir nos deux espions entrer dans la maison et à l'étage habituel, le rideau se soulever, tandis que des visages anxieux se collaient aux vitres des fenêtres. « Ils continuent, » dit Martin Humain, « à monter leur garde. Ma présence ici aujourd'hui leur cause une vive émotion. » Peu après, nous étions introduits dans la bibliothèque du chevalier. Au bout de quelques minutes, le chevalier faisait son entrée, le bras gauche en écharpe.
Il alla droit à Martin Numa qui se leva aussitôt. Il le serra de son bras droit sur sa poitrine, affectueusement. Martin Numa lui rendit son étreinte cordiale. « Mon cher ami, lui dit le chevalier, maintenant que je vous ai montré le sentiment que mon cœur éprouve à jamais pour vous, maintenant que je vous ai fait voir non seulement ma grande estime, mais ma sincère affection et que je vous témoigne la reconnaissance que j'ai pour vous, je vous fais hautement et devant notre ami Courville, qui assista à l'offense que je vous ai faite, je vous fais mes sincères excuses que je vous prie d'accepter avec autant de loyauté que je les exprime. » Martin Numa, avec une émotion sincère et profonde, serrant dans sa main celle du chevalier, lui dit « Je ne me souviens pas que vous m'ayez offensé. Vous ne pouviez le faire, car si vous aviez pu critiquer un acte que j'ai accompli chez vous, et malgré vous, vous n'avez pu y voir à votre adresse une offense. Au fond, vous saviez que mon devoir était d'agir comme je l'ai fait, donc vous ne m'avez pas offensé. » Alors le chevalier, après une dernière étreinte, dit à Martin Numa « Mon cher ami, je vous dois la vie. J'avais en effet trop présumé non seulement de mes forces et de mon courage, mais même de ma vigilance. J'avais même trop compté sur mes chiens, sur mon Tintin. Quand bien même mes chiens, mes serviteurs, mon pauvre Pietro, quand bien même nous eussions été tous en mesure de nous défendre, il eût été trop tard. Toute bravoure devait être inférieure à la ruse de ces bandits, de mes bourreaux invisibles. C'est vous qui avez déjoué leurs machinations infernales. C'est vous qui les avez surpris dans leur guet-apens. C'est vous, enfin, qui nous avez tous sauvés. Encore, merci. » Alors le chevalier tendit à Martin Numa la boîte de cigarettes et lui dit « Nous pouvons fumer tranquillement aujourd'hui. Je le crois, je l'espère. Il est probable que de longtemps les fantômes de neige ou les ombres de l'enfer ne viendront plus ici. » Martin Numa secoua la tête et dit « Peut-être, peut-être. Mais attendez-vous à la visite du diable. » Il prit une cigarette. Lentement, l'alluma et fit semblant de ne pas voir le regard inquiet et interrogateur du chevalier, qui, connaissant maintenant le caractère de notre ami, sachant qu'il lui déplaisait fort d'être questionné, n'osait lui demander ce que signifiait cette sorte d'énigme. Martin Numa dit alors au chevalier « J'avais tous les jours de vos nouvelles. Je savais comment se comportait votre blessure. De mon côté, caché où j'étais, pour que personne ne sût que j'étais blessé, et que mes ennemis n'eussent pas cette joie de savoir à quel prix de double souffrance nous avions acheté notre victoire, j'attendais non la guérison, mais un mieux, qui me permit de venir aussitôt vous dire que, comme vous, je me tirerai vaillamment de cette aventure. Je l'espère. Vous au bras, moi à la jambe, tout ira bien. Nous pourrons marcher bientôt, nous pourrons bientôt agir comme si nous n'avions jamais été touchés par ces misérables. Eux le sont davantage. Celui qui m'a blessé doit avoir le bras cassé, l'épaule démise. Il doit souffrir horriblement et sera long à se rétablir. Celui qui a voulu à diverses reprises vous assassiner, même agir avec son épée comme si c'eût été un poignard, celui-là est bien mort, et son ardeur de criminel est aujourd'hui à jamais figée à la nouvelle morgue, où on le conserve pour la reconnaissance et l'enquête qui s'impose. » Alors Martin Numa reprit. « Je dois vous apprendre quelque chose d'étonnant, qui d'ailleurs ne laissa pas de surprendre notre ami Courville. Cet homme, qui se donna à vous comme le baron Pompéry, est tout bonnement le chauffeur du comte di Villa Ciarboli, le mécanicien. Le mécanicien d'Anlio, c'est cet homme qui vint se proposer à vous comme mécanicien et que vous avez eu la bonne inspiration de repousser. Cet homme avait déjà mission de vous tuer, et il put, en venant chez vous, étudier les êtres de votre demeure, la disposition du jardin et des pièces de la maison. Donc, de longue date, le crime était préparé. Il nous restera maintenant à savoir si ce baron Pompéry existe réellement, et si nous n'avons pas affaire ici à un double baron, comme nous avons déjà un marquis qui est double. » Martin Numa alors dit au chevalier, « Eh bien, le devoir qui nous incombe est non seulement la vengeance et la punition, mais la protection de ceux qui ne sont pas, comme nous, prévenus, on n'attaque pas comme nous et qu'on peut par traîtrise faire tomber dans un guet-apens mortel. » Quels sont ces gens? L'ami Bessette, d'abord, et enfin cette femme, cette jeune fille plutôt, que je regarde comme la fleur qui pousse sur tant d'horreurs, Jeanne Castagnier. Le chevalier et moi nous écoutions avec anxiété Martin Numa. Le roi des détectives puisa dans la boîte aux cigarettes et reprit. Pour le moment, l'ami Bessette est en sûreté, au loin. Je l'ai envoyé vendre ses vins sous d'autres cieux et faire entendre sa voix de ténor à d'autres amateurs de musique. Parfait. Cette adorable jeune fille, Jeanne Castanier, n'a rien à redouter d'ici quelque temps, tant que durera son deuil. Et j'espère avoir pu, d'ici là, écarter d'elle tout danger. Très bien. Vous nous avez en effet dit que la mère, Madame Castanier, veuve du banquier assassiné, avait, dans son orgueil, formé le projet de marier sa fille cadette, Jeanne, au fiancé de sa fille aînée, trouvée morte auprès du cadavre de son père, au fiancé de la jeune défunte. Le marquis Primo di Carmine Santucci ? S'écria le chevalier indigné. Oui. Cette vaniteuse millionnaire veut à toute force avoir une couronne dans sa famille. Elle tient absolument à ce que sa fille épouse le marquis, comme si ce mariage devait l'anoblir elle-même. Pauvre cervelle. Mais dangereux projet. Rassurez-vous, nous veillons sur le sort de la victime promise au marquis. Nous empêcherons l'accomplissement de cette infamie. Avec un sourire énigmatique, Martin Huma ajouta. Nous l'empêcherons. Dussions-nous pour cela employer la force armée ? Le chevalier ne comprit évidemment pas ce que signifiaient ces dernières paroles. Mais moi, qui étais dans le secret, qui connaissais le capitaine Alary, qui me rappelait la scène de l'église et du cimetière, ayant compris l'allusion, je souris aussi à tous ces souvenirs. Martin Huma alors reprit. Ces deux victimes donc échapperont au coup perfide qui les menace. Grâce à vous, espérons-le. Mais il est une troisième victime qui, affolée, se désole et a peur de mourir. Une troisième victime ? S'écria le chevalier. Oui, une jeune femme sans défense. Voyons, est-ce que nous ne pouvons pas lui venir en aide, aller à son secours ? Peut-être, répondit Martin Huma. Oui, peut-être. Et il demanda au chevalier. Connaissez-vous la Margellina ? En hésitant, le chevalier répondit. La Margellina ? Peut-être. N'est-ce pas une jeune artiste ? Parfaitement. Avec émotion, le chevalier Fonti s'écria. C'est elle, la troisième victime ? C'est elle que ces bandits menacent de mort ? À ce moment, le timbre de la porte d'entrée de la villa retentit. Nous reparlerons plus tard de la Margellina, dit vivement le roi des détectives. Maintenant, recevez la femme qui vient vous voir. La femme qui vient me voir, comment savez-vous que c'est une femme ? Je sais qui c'est, je sais même son nom. Son nom ? La Focamore.